Bonsoir à tous, bienvenue à tous nos auditeurs sur les antennes de Radio BAM et de Radio Zinzine en direct de Marseille. Donc on est le samedi 31 janvier et vous êtes au rendez-vous pour les infos de ce samedi soir de 19h avec toute notre équipe. Et aujourd'hui on commencera par la présentation habituelle des éphémérides et de l'agenda. Damien qui nous donnera un bon aperçu de l'agenda assez chargé de cette semaine. On passera ensuite aux informations locales avec notamment deux informations. Tout d'abord l'évacuation malheureusement de la ZAD, de la zone à défendre du square Michel Lévy de Marseille qui a eu lieu cette semaine et dont on reparlera. Avant de revenir assez dans le détail sur ce qui est apparu cette semaine à propos du marché de l'eau de Marseille attribué en 2013, mais qui a fait l'objet d'une enquête par le parquet national financier. On en reviendra longuement sur cette affaire aussi avec notre invité du jour, qui est Eric Face,
bonjour.
Qui viendra nous parler du GREM, qui est une manifestation qui aura lieu les vendredis et samedis 6 et 7 février. La GREM, qui est donc la grande rencontre euro-méditerranée de Marseille sur l'eau, avec des débats, un forum sur les peuples et sur l'eau, avec beaucoup d'interventions assez intéressantes, et Eric Face nous en parlera. Après quoi, on reviendra dans l'actualité nationale sur le nouveau plan éco-phyto, entre parenthèses, sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. On verra qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Et enfin, sur l'international, on aura un invité qui viendra nous parler de Kobané, je crois, Damien.
Militant marseillais kurde.
Ouais.
Et qu'on avait reçu déjà à cette antenne au début de la bataille de Kobané. Et comme vous le savez, il semblerait qu'il y ait une victoire des Kurdes sur l'État islamique. Et du coup, on va évoquer ce sujet avec lui ce soir.
Très bien. On parlera aussi, toujours dans la même région, malheureusement, des échanges de tirs qui ont eu lieu cette semaine entre le Hezbollah et Tzal dans le sud Liban. Et des promesses de François Hollande, Damien, sur...
Les promesses tenues.
Ah, finalement. Ouais,
finalement, au moins une promesse tenue. Mais vous verrez que c'était pas une promesse qui avait un grand poids, en tout cas, ni un grand impact.
Malheureusement. Et enfin, on aura une petite note sympathique avec un portrait d'un homme qui fait assez peu l'actualité, qu'on ne connaît pas trop, mais qui est Pepe Mujica, qui est le président uruguayen, mais qui multiplie les bonnes actions, on va dire ça comme
personnage haut en couleur.
Voilà, haut en couleur et finalement avec une politique assez atypique et qui dénote, mais qui fait du bien. Et du coup, on y reviendra un petit peu dans sa présentation. Donc du coup, Damien, on attaque tout de suite les éphémérides.
Alors, on attaque cette éphéméride en 1899 avec l'invention de l'aspirine. Un peu plus tard, près d'un demi-siècle plus tard, en 1956, Lucie était la première étudiante noire à être admise à l'université de l'Alabama sur ordre de la cour fédérale américaine. En 1960, c'était la fin de la semaine des barricades à Alger, donc toujours un 1er février, puisqu'on fait l'éphéméride de dimanche, étant donné que vous pouvez nous écouter ce dimanche matin pour la rediff. Et en 2000, c'était l'entrée en vigueur des 35 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés, et donc dans les autres entreprises, ça a suivi en 2002. La même année, donc en 2000, l'Assemblée nationale a adopté un premier projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Autrement dit, c'était la première pierre à l'édifice de la privatisation de EDF. Au niveau des journées internationales qui sont célébrées aujourd'hui, une aux États-Unis, la National Freedom Day, qui rend hommage à ces Noirs qui se sont battus pour obtenir l'abolition de l'esclavage. Et c'est même un mois de l'histoire des Noirs qui est célébré aux États-Unis et y compris au Canada. Et enfin, pour basculer vers l'agenda, il y avait un événement à suivre aujourd'hui dans l'actualité internationale. C'était la grande manifestation à laquelle appelait le mouvement Podemos, donc dans la droite ligne du parti Syriza en Grèce, mais aussi des indignés, qui a donc donné ce mouvement Podemos en Espagne. Voilà, donc le mouvement qui vise des élections régionales prochaines en mai et surtout les législatives à la fin de l'année en Espagne.
Et comme on en discutait aussi avec notre invité Eric Feiss tout à l'heure, il est bon de rappeler que il y a 60 ans, en 54, alors bon, on est désormais en 2015, mais on est encore dans l'hiver de cet anniversaire un peu triste et dont il faut se rappeler avec l'appel de l'abbé Pierre, qui est toujours d'actualité. On aura certainement l'occasion d'en reparler, je pense, dans d'autres émissions. Maintenant, pour l'agenda, Damien.
Alors, pour l'agenda. Donc pour ce jeudi, une manifestation aura lieu à Saint-Paul-les-Durances devant le CEA de Cadarache, donc à l'appel de la CGT Colas et de la CGT Construction Bois et Ameublement. Donc ils appellent à un grand rassemblement le 5 février à partir de 6h du matin devant le CEA, notamment pour s'insurger contre les conditions de travail des fameux travailleurs détachés, ce qu'on appelle les travailleurs détachés, qui sont des travailleurs étrangers, mais qui sont couverts par les régimes sociaux de leur pays d'origine et non par la France. Donc voilà, c'est pour critiquer ce dumping social, même dans le milieu très sécuritaire du nucléaire. Donc voilà, ça se passe à Saint-Paul-les-Durances devant le CEA, jeudi 5 à partir de 6h du matin. Prochain rendez-vous à Marseille cette fois-ci, le 6 février, donc vendredi, au squat La Torpille et à prix libre comme toujours. Il y aura donc à partir de 20h une projection de plusieurs films, donc notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Voyage au cœur de l'Europe socialique. L'Europe sociale aurait donc un hic. Et deux courts-métrages vus sur la surveillance, ou la vidéosurveillance plutôt, et un autre court-métrage qui s'appelle 3 minutes. Ça sera suivi d'un débat. Et alors pour aller au squat La Torpille, ça se trouve au 23 rue des Phocéens dans le 2e, c'est à proximité de la Joliette et du boulevard des Dames. Dernière date à retenir dans cet agenda, d'abord vendredi et samedi auront lieu les deux journées du GREM, vendredi et samedi, oui.
Oui, c'est ça,
vendredi. Donc le 6 et le 7, et alors ça va se superposer, mais le samedi 7 également aura lieu au Tourski une grande soirée de soutien au journal La Marseillaise en redressement judiciaire et en grande difficulté. Donc rendez-vous à partir de 20h30 au théâtre Tourski. Il y aura une représentation de La Méthode de Léo Ferré par le directeur du Tourski, Richard Martin, puis un débat sur l'avenir du journal La Marseillaise, et une participation de 7€ vous sera demandée au profit du journal La Marseillaise.
Bon, une semaine avec pas mal de rendez-vous, et j'espère que vous ne les manquerez pas, en tout cas nous on ne les manquera pas. Dans l'info locale maintenant à Marseille, deux choses un peu tristes, en tout cas un peu ralentes, qui nous sont parvenues comme info, avec tout d'abord l'évacuation de la ZAD, la zone à défendre du square Michel-Lévy d'Amiens, qui a été évacuée par la police.
Oui, alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce dossier, on va le reprendre depuis le début. Donc c'était un square, le square Michel-Lévy, donc avec des arbres très anciens, il paraît que certains étaient centenaires. Situé vraiment dans l'hyper-centre de Marseille, entre Castellane et la rue de Lodi, donc dans un espace où il y a vraiment très très peu de poumons verts, on va dire. Et donc c'est une lutte pour la préservation de cet espace qui dure depuis plusieurs années grâce aux riverains. Et donc la destruction devait commencer jeudi dernier. En réaction à ça, un certain nombre de militants ont décidé d'occuper le lieu et donc de créer une ZAD, une zone à défendre à Marseille, donc au square Michel-Lévy. Et ils ont donc occupé de jeudi dernier, le 22, jusqu'à vendredi 30, donc hier. Et donc vendredi, ils ont été délogés par la police tôt le matin et en nombre, puisque il y avait au moins 8 camions de CRS. 52 fonctionnaires pour déloger à peu près une quinzaine ou une vingtaine de militants. Voilà, donc ces militants ont essayé de ne pas baisser les bras et sont donc allés l'après-midi occuper le bureau de Unisil, qui est donc le maître d'œuvre du projet et qui doit construire à l'emplacement du parc un grand parking et un bâtiment mixte de logements sociaux et d'accession sociale à la propriété. Voilà, donc a priori, fin définitive de la ZAD à Marseille, puisque les arbres, notamment le micocoulier qui était un petit peu emblématique, a été détruit. Voilà, il y avait un militant qui avait mis une planche en haut de cet arbre et qui voulait monter là-haut pour empêcher qu'on le coupe. Mais il a malheureusement été pris en bas, tôt le matin, par les forces de l'ordre. Donc voilà, une ZAD s'éteint et un poumon vert est rasé dans le centre-ville de Marseille.
Bah, en sachant qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, alors s'ils enlèvent les derniers carrés d'espace vert, ça va être assez difficile, mais bon, faut bien parquer les bagnoles que continue de nous imposer la politique urbaine marseillaise. Deuxième info, cette fois-ci, qui rejoint le grand propos qu'on aura tout à l'heure avec notre invité, c'est l'annonce qui a été faite le 12 janvier dernier et qui est apparue dans la presse cette semaine. C'est l'enquête menée par le Parquet National Financier à propos d'éléments alors assez nombreux, tels que du favoritisme, de la prise illégale d'intérêt, de la complicité et du recel de ces délits concernant l'attribution des marchés de l'eau de Marseille, qui a eu lieu le 31 octobre 2013. À l'époque, il s'agissait en fait d'attribuer des délégations de services publics pour 4 marchés de l'eau et de l'assainissement pour un chiffre d'affaires total de 3,2 milliards d'euros. Et à l'époque, c'est la SEM, la Société des Eaux de Marseille ou Société des Eaux Marseillaises, qui est une filiale à 100% de Veolia, qui remporte à l'époque 3 marchés sur 4 pour l'équivalent de 2,3 milliards d'euros. Et déjà à l'époque, la Chambre régionale des comptes avait mis son nez dans cette affaire avant que le Parquet national financier ne s'en occupe. Et la Chambre régionale des comptes avait déjà l'an dernier évoqué des graves problèmes dans l'attribution de ce marché, avec, je cite notamment, une économie générale du contrat qui est très favorable aux intérêts du délégataire et donc en conséquence défavorable aux municipalités et à ses habitants. À ce titre-là, la Chambre régionale des comptes notait que, par exemple, pour l'investissement proposé par la SEM à Marseille sur 15 ans, il s'agissait de 39,7 millions d'euros, alors que pour un contrat équivalent à Paris, Suez avait proposé l'équivalent de 80 millions d'investissements sur 12 ans. Donc là, on situe bien à peu près la différence de 1 à 2 dans ces deux contrats. Quoi qu'il en soit, au-delà même de ce problème, on notera que le parquet financier note des actes de favoritisme et de prise illégale d'intérêt. Et ça provient du fait que Martine Vassal, président de la commission agglomération éco-responsable auprès de Marseille-Provence Métropole, en tant que présidente de cette commission, a eu une influence directe sur la décision du choix du délégataire de service public, donc de l'attribution de ce marché. Et malheureusement, cette gentille Martine Vassal, qui est d'ailleurs la tête de liste UMP pour les prochaines cantonales pour le département, elle est à l'époque de l'attribution de ces marchés, trésorière du Conseil mondial de l'eau, qui a été l'organisateur du Forum mondial de l'eau en 2012, on en reviendra en parlant de la grève tout à l'heure. Et malheureusement, ce Conseil mondial de l'eau, il était présidé par Loïc Fouchon, qui n'est rien d'autre que le président de la SEM, qui s'est vu attribuer le marché à 2,3 milliards d'euros. Donc tous ces gens, bien à coquiner, ont essayé de se justifier de toutes les manières. Si Martine Vassal, elle répète à qui veut l'entendre qu'elle n'a fait que suivre les prescriptions des services de MPM, et que finalement la Chambre régionale des comptes et le parquet national financier ne font finalement que œuvre de lobbying en quelque sorte pour un retour en régie de la gestion de l'eau à Marseille. Puisque je vous le rappelle, en fait, la SEM, donc Veolia aujourd'hui, elle distribue l'eau à Marseille depuis 1942, ce qui n'est pas rien. Et sachant que le retour en régie, la déprivatisation de l'eau, on y reviendra tout à l'heure, a lieu dans nombre de villes, mais pas forcément à Marseille. Et enfin, dernier élément qui est assez comique, c'est que du côté de la SEM, afin de justifier l'attribution de ce marché, ils ont mis en avant le fait qu'ils avaient fait une grosse ristourne de 20% sur leur marché par rapport au marché précédent. Et du coup, il y a nombre de commentateurs qui sont empressés de demander « Mais ces 20% dans le marché précédent, ils servaient à quoi ?» Parce que si vous les avez déduits et que vous arrivez encore à faire une marge, donc en gros, grosso modo, vous surfacturiez de 20% avant. Donc tout ça est très très flou.
De 20% au moins.
Voilà, au moins. Pour certaines études, notamment en Île-de-France ou dans des villes moyennes comme Montpellier ou Brest, il est vrai que des études ont prouvé qu'on pouvait diminuer largement plus le coût de l'eau, et en tout cas dans la gestion publique de l'eau par rapport à la gestion privée. Quoi qu'il en soit, on n'hésitera pas à suivre le déroulé de cette affaire, et on va tout de suite, après une pause musicale, en reparler avec notre invité Eric Feiss des grandes rencontres Euroméditerranée de Marseille sur l'eau. Tout de suite, une petite pause musicale. De retour sur les antennes de Radio Zinzine et de Radio BAM avec notre invité ce soir des infos, Eric Feiss. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Qui va venir nous parler de la GREM, donc qui est cette grande rencontre euroméditerranée de Marseille sur l'eau. Est-ce que tu peux déjà nous dire un mot, un petit peu de comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, les enjeux?
Oh, les enjeux de l'eau sont énormes. Notamment dans les déglaçons de services publics dont on parlera. Il y a d'autres manières de la gouvernance de l'eau. Nous, en fait, nous sommes eau bien commun, donc c'est un commun, donc normalement ça devrait être transversal et pas d'intérêt privé, on va dire. Mais bon, on est dans au conseil régional le 6-7 février et malgré l'institutionnalité, nous arrivons à tirer la quintessence, si je peux me permettre, de l'eau, puisqu'on arrive à balayer quasiment tous les sujets qui font où l'eau est transversale. Donc c'est eau et santé, eau pollution, eau gouvernance, eau femmes, eau Palestine, eau Grèce, eau référendum, eau démocratie, comme disait mon collègue militant du référendum italien de l'eau. Donc l'eau est très complexe, et vous l'avez compris, puisque derrière tout ce que vous avez ressorti et qui manque un peu quand même de précision, et je suis désolé, mais c'est très important quand on parle, on cite des personnes. Pour l'instant, ce qui se passe par rapport au contrat de Marseille, c'est que en fait, globalement, la Cour des comptes régionale a donné un avis défavorable. Il se passait des choses. Tout ce que vous avez dit est réel, mais ce n'est pas prouvé. Hein, donc attention, on fait attention à ça. Sinon, quoi dire sur l'eau? L'eau, sur nos ateliers, par exemple, on va avoir un atelier le samedi à 14h, le 7, sur la pollution de l'eau en Méditerranée. Qu'est-ce que c'est? C'est les boues rouges,
ouais.
Cortiou. Et le boue rouge, je peux vous dire que c'est quasiment un des plus grands scandales environnementaux européens.
Donc on va rappeler un petit peu ce qui s'y passe. On en avait parlé à cette antenne d'ailleurs, et donc c'était à l'occasion au moment où le parc national des Calanques avait redonné son accord pour que Alteo, l'entreprise qui a son usine à Gardanne et qui rejette ses boues rouges donc depuis 60 ans en mer Méditerranée. Donc le parc national des Calanques a redonné son autorisation à la poursuite de ses rejets en mer.
Alors ça sera des rejets liquides et plus des rejets solides. Et c'est l'accord qu'il y a eu avec l'exploitant des bauxites à Gardanne.
Donc avec de nouveaux filtres. Théo,
oui, tout à fait. Mais en fait, malgré, enfin, il n'y a plus de solide, mais il y aura du liquide. Et le problème, c'est que c'est la dangerosité des rejets, en fait. Globalement, on aura quelqu'un dans cet atelier. Alors, je vais forcer la dose sur cet atelier, mais on a vraiment quelqu'un qui a plongé sur le site, qui a vu ce qui se passait et qui, lui, m'a alarmé, hein, quelque part, parce qu'en fait, c'est 2500 km² de Méditerranée qui sont pollués par les boues rouges. Ça va de l'embouchure du Rhône jusqu'à Toulon, à 4 ou 5 milles des côtes du littoral, et il y a 10 cm de boues rouges partout. Donc la vie océanique et la biodiversité, ça me nuise, et donc forcément il y a un impact, puisque moi je fais partie de ceux qui se croient pas au créationnisme. Voilà. Donc la grême, un événement riche, parce que l'eau est transversale à toutes nos conditions humaines, hein. L'accès à l'eau dans la ville, nous on souhaiterait qu'il y ait des fontaines, qu'il y ait des espaces publics de l'eau récréative, l'eau ludique dans la ville, mais des toilettes publiques, des bornes d'eau. Aujourd'hui à Marseille, quasiment tous les touristes, soi-disant une ville dédiée au tourisme, une ville qui accélère alors que tout le monde fait dans le slow, dédiée au tourisme, même les touristes se plaignent qu'il n'y a pas de fontaine, et c'est une pissotière. Je suis désolé, mais ça existait il y a quelque temps.
Et donc une revendication de l'accès à l'eau pour tous.
Absolument.
Comment on peut parvenir à cet accès à l'eau partout ? Est-ce qu'on peut faire confiance aux multinationales pour faire ça, ou bien
alors c'est voilà
quelle autre solution ?
Alors tout à fait. Alors au bien commun PACA, donc l'association organisatrice de la grême, revendique ou aimerait qu'il y ait une réappropriation des usagers citoyens de l'eau, de la politique globale de l'eau. Hein, donc l'eau dans la ville, hein. Pas que la facture de l'eau au robinet, il n'y a pas que ça dans le cycle de l'eau. Parce que il y a un aspect des choses dont je n'ai pas encore parlé, mais il est évident que dans l'année climatique de la COP21, il y a une interaction entre l'eau et le climat, et le climat et l'eau. Et il y a deux ateliers qui vont être dédiés à cette thématique. On ne dit pas qu'on va changer le climat, mais on pourrait atténuer si une politique cohérente de l'eau était faite dans l'urbanisme, on pourrait atténuer les effets du changement climatique qu'on pressent aujourd'hui et qu'on commence à sentir individuellement l'impact. Il me semble que dans la semaine, il y a eu un coup de blizzard sur New York. Ça a fait pas mal de dégâts économiques. Donc il faut absolument qu'on intègre la politique de l'eau au niveau du citoyen et un accès au plus d'entre nous. Je rappelle quand même des chiffres, il y a encore tout ce qui est, malheureusement, je dirais, tout ce qui est SDF, ROM, jardins publics sont coupés d'eau aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que dans les jardins publics d'enfants à Marseille, à l'époque, il y avait un robinet d'eau partout. Aujourd'hui, ils coupent les eaux. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, ça fait venir les SDF. On est dans une société qui fabrique de la misère et on ne veut plus l'avoir. Hein. On a le prix Pinocchio, le prix Sébastopol, excusez-moi, de Marseille, le prix Sébastopol. Sébastopol, pourquoi ? C'est les copains d'Emmaüs qui ont fait ça, parce que on a fait un arrêt sur la mendicité. Marseille fabrique de la lumière, mais veut pas voir la misère. Je suis désolé, mais le bien commun, il est pour tous.
Très bien. Alors, programme assez riche. Au niveau des partenaires de cette rencontre, qui on va retrouver au Grême, donc le 6 et 7 février ?
Alors là, je vais faire des impairs, parce qu'il y a tellement de monde. Si je cite quelques personnes ou quelques organisations, je vais en oublier. Mais je vais quand même en citer quand même des fortes et des connues. Alors on va dire qu'il y a Eau Île-de-France, la coordination nationale, Eau Bien Commun, les Amis de la Terre, Greenpeace, ATTAC, Green Cross, la Fondation France Liberté, Épure, Je vais en oublier, donc je suis désolé.
Et donc puis après, beaucoup de partenaires.
Oui, vraiment, vraiment beaucoup.
Et même donc des partenaires institutionnels, puisque vous êtes accueillis par le conseil régional.
Alors, le conseil régional a toujours été, en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est pour ça que je suis un militant de l'eau aussi, parce que quelque part, historiquement, Manon des Sources, tout ça, ça nous parle. Il faut reconnaître que la région, alors c'est pas une compétence obligatoire de la région, c'est une compétence choisie. Mais la région a toujours accompagné les acteurs de l'eau et les personnes qui voulaient se réapproprier la gouvernance de l'eau. Il faut reconnaître que Michel Vauzelle, il y a quelques années avant le Forum Alternatif Mondial de l'eau, avait pris des engagements le jour de la visite de Madame Danielle Mitterrand pour la journée des peuples solidaires, il me semble, là je fourche peut-être un peu. En tout cas, il avait pris des engagements, il les a tenus. C'est pour ça que d'ailleurs on a l'occasion de pouvoir parler de l'eau au conseil régional dans une institution où on nous demande finalement pas beaucoup de compromis, si je peux me permettre comme ça.
Et du coup, 3 ans après le Forum Alternatif de l'eau et qui était le parallèle du Forum Mondial de l'eau officiel, quelles sont les dynamiques, mais
est-ce qu'il y a eu
une prise de conscience, des avancées, quelles sont les différences entre 3 ans?
Alors, le Forum Alternatif Mondial de l'eau est à l'origine de Eau et Bien Commun PACA, puisque c'est une coordination informelle qu'il avait créée, puis de ses collaborateurs qui ont fait cet événement-là, on en a fait une association. Aujourd'hui, on dénonce le Forum Mondial de l'eau qui va avoir à Déhou. Pourquoi ? Parce qu'il propose un forum des solutions, alors qu'en 2012, c'était un forum des solutions. Et nous, on a des solutions. Et justement, c'est tout l'intérêt de l'alter-forum qu'on avait fait il y a 3 ans, c'est que on s'est mis en ordre de marche, on essaye de faire de la synergie, de la convergence pour trouver des solutions. Et je vous assure, quand j'ai parlé de l'atténuation de l'impact climatique que peut avoir la gestion de l'eau dans notre espace de vie ou notre environnement proche, il est réel. Et tout ça, on va le démontrer à la grève. Alors que eux, ils en sont encore au Forum des Solutions. Je vous rappelle l'objectif de l'ONU du millénaire, c'était que tout le monde avait droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement, parce que quand on parle d'accès à l'eau, on parle souvent de l'eau à boire, bien évidemment, et un point d'eau pour l'ONU, c'est à 20 minutes de marche, enfin 20 minutes d'un mode de déplacement, enfin bref. Donc il y a quand même encore à peu près 900 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau et 2 milliards de personnes qui n'ont pas droit à l'assainissement. Donc les solutions, on demande où elles sont, alors que nous, on peut les apporter. Je ne citerai ne serait-ce que les toilettes sèches, et vous imaginez tout ce que ça peut décliner derrière.
Eric, si tu veux bien, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cet aspect démocratie de l'eau. Il me semble qu'il y avait une ICE, une initiative citoyenne européenne, qui avait été lancée sur ce sujet, et il me semble qu'elle a connu un destin assez funeste.
Alors en effet, c'était la première ICE européenne, c'était dans le pacte, et donc en fait oui, en France il a été difficile d'avoir des citoyens engagés, parce que en fait on demande, c'est un référendum en fait, c'est pas une pétition, donc il fallait une carte d'identité, enfin il fallait vraiment signer, s'engager. Donc bon, il y a eu le 1,5 million d'Européens dans les 12 pays, enfin bon.
Et en fait, 1,8 million de
ouais,
signatures.
Oui, tout à fait, 400 000 Allemands, etc. Et en fait, la Commission nous a dit, enfin la Commission européenne finalement, on n'est pas satisfait du résultat en effet. Alors après, malheureusement, je suis pas assez informé ou je peux pas vulgariser pourquoi ça s'est terminé en eau de boudin, si je peux me permettre.
Ouais, en tout cas,
malheureusement, malgré l'initiative des citoyens européens et des usagers de l'eau autour de l'eau en Europe, la Commission a mis ça un peu sous le coude et l'ICE était pour le retour en régie publique avec les usagers de l'eau, quoi. Et donc la Commission a mis ça un peu sur le coude. Mais désolé, je suis un peu sec là, sur le sujet.
Donc sourde oreille de la Commission. Et toujours donc dans ce thème de la démocratie, quelle est la place du GREM et donc du Forum Alternatif Mondial de l'eau dans le cadre du Forum Social Mondial qui va avoir lieu à Tunis en mars 2015?
Alors, ben l'eau, c'est la vie. Hein. Il est évident que ben, nous serons, nous, peuple de l'eau, les Water Warriors sont les porteurs d'eau, comme on peut s'appeler entre nous, de temps en temps. Nous serons au Forum Social Mondial de Tunis. Nous avons l'eau bien commun, l'eau internationale, l'eau bien de tous. Nous aurons un pavillon de l'eau au Forum Social de Tunis, et je pense en être.
Et à une échelle plus locale, quelle serait, tu nous parlais de solutions tout à l'heure, et à l'échelle de la région PACA, est-ce que il y a des solutions aujourd'hui qui pourraient être mises en place et par les pouvoirs publics, qu'ils soient municipaux ou régionaux, et qui vous sembleraient être des bonnes pistes de recherche ou...
Alors. Bien sûr, oui, il va être très, très difficile de résumer, mais il y a énormément de solutions. D'abord, la respecter l'eau. Hein, le principal, c'est la respecter, pas la polluer. On dit souvent qu'à Marseille, on est à l'abri. C'est vrai qu'on est souvent à l'abri par rapport. On est la seule ville au monde, en France et au monde même, à avoir 40 jours de réserve d'eau. Ça, c'est un truc, ça vient de peut-être notre culture depuis les Romains, depuis 2600 ans. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas de stress hydrique. Et il faut vraiment que toutes les compétences et la gouvernance de l'eau fassent une synergie pour que ce bien fondamental et cette ressource essentielle à la vie soit sauvegardé. Et avec moi, je me suis rendu compte récemment en faisant une petite étude sur l'impact climatique, mais vraiment l'impact climatique avec la montée des eaux, la différence de la pluviométrie dans la région, nous sommes pas à l'abri d'ici 15 à 20 ans d'avoir des stress importants d'eau, donc des stress et de manque d'hydratation carrément de l'humain quoi. Plus de public, plus de compétences se mettront autour de ce débat. Donc je fais appel à bénévoles pour l'agrément en plus. sont les bienvenus quoi.
Alors justement, comment on fait si on veut, alors on peut venir en tant que public au GREM, donc vendredi 6 et samedi 7 février. Et si on veut aider un peu plus et venir faire du bénévolat, comment on fait ?
Alors, c'est lundi à 19h pour les derniers militants volontaires et bénévoles qui souhaiteraient nous aider pour l'eau bien commun PACA et l'eau bien commun humain. C'est à 19h au local de Solidaire au 29 boulevard Longchamp, ce lundi.
Super. Eric, on te remercie chaleureusement d'être venu présenter le GREM à cette antenne. On ne manquera pas de vous tenir informé de ce qui se passera la semaine prochaine lors de ce forum. On va, je pense, écouter un petit morceau de musique et puis on se retrouve très vite pour l'actualité nationale.
De retour pour les infos de 19h à 20h sur Radio BAM et Radio Zinzine, avec une petite info nationale qui est apparue là dans les journaux ces derniers jours à propos du nouveau plan phytosanitaire sur grosso modo sur les insecticides, l'utilisation des insecticides dans l'agriculture. Et c'est un retour en fait sur le plan éco-phyto qui était issu du Grenelle de l'environnement en 2008 et qui avait pour ambition à l'époque de diminuer de 50% l'usage des pesticides d'ici, alors à l'époque, à 2018. Donc 2018, désormais, c'est dans 4 ans. Et malheureusement, on observe finalement une politique qui résulte sur un échec, puisque entre 2009 et 2013, donc à l'issue du Grenelle de l'environnement et jusqu'à il y a un an et demi, en fait, ces utilisations de produits chimiques en agriculture ont progressé de 5% par an en moyenne. Et même, on notera que en 2013, une année qui a vu un bond finalement de l'usage de ces pesticides dû aux aléas climatiques, qui ont fait qu'il y a eu une augmentation de 9%. Donc un échec complet de ce plan éco-phyto qui a amené le ministre de l'Agriculture, Jérôme Le Foll, à repenser un plan d'utilisation des pesticides, insecticides dans l'agriculture. Et finalement, ça débouche aujourd'hui sur un projet qui est, on va dire, un peu mi-figue, mi-raisin, mais qui doit permettre une réduction au minimum, on va dire, une réduction à la marge, comme le disent certains, des utilisations de ces pesticides, avec plusieurs propositions qui peuvent paraître plus ou moins encourageantes, avec notamment des innovations sur les machines agricoles, l'utilisation de GPS, de pulvérisateurs de précision sur certaines zones en particulier et pas de manière extensive, ou bien encore avec des solutions un peu différentes, avec les fermes pionnières du réseau Défi, qui aujourd'hui il y en a 2000 et le ministre propose d'en développer 1000 de plus afin de convaincre véritablement les autres exploitants que ces installations pionnières dans lesquelles les insecticides, l'utilisation des insecticides a vu le chiffre tomber. Je vous parlais tout à l'heure d'une augmentation de 9% sur l'année en moyenne en 2013 pour l'ensemble de la France. Dans ces fermes pionnières, en 2013, il y a eu une diminution de 12% en moyenne de l'utilisation des pesticides, comme quoi il y a des solutions. Et face à ce nouveau plan, en fait, je vous disais que c'était un peu mi-figue, mi-raisin, puisque les réactions sont assez peu sont un peu diverses. Bien évidemment, les industriels de l'agrochimie, eux, ils n'ont pas manqué de réagir et de dire que non, ils n'avaient pas du tout d'objectif de réduction à tenir et que de toute façon, c'est les agriculteurs qui feront avec ce qu'on leur donnera. En revanche, la Confédération paysanne, elle salue bien évidemment l'intention de réduire ces pesticides, mais elle note tout de même que ça inscrit finalement l'agriculture et les agriculteurs dans une logique où de toute façon, on a recours aux pesticides, aux insecticides, et qu'il suffit juste de les diminuer, alors que finalement, l'agroécologie aujourd'hui, elle propose finalement des systèmes où on n'en a même plus besoin, avec des rendements qui sont tout à fait équivalents à ceux d'une agriculture industrielle extensive telle qu'on peut la connaître avec des pesticides. Quoi qu'il en soit, c'est un plan qui peut paraître assez éloigné des plus urbains d'entre nous, mais qui finalement a son importance. Et à ce titre-là, pour finir sur ce dernier projet phytosanitaire, on notera qu'encore une fois, il n'y a aucune promesse en fait sur l'abandon de l'usage des néonicotinoïdes, qui sont ces insecticides les plus puissants, qui sont accusés notamment d'augmenter la surmortalité des abeilles. Donc voilà, une preuve parmi d'autres qu'on avance à petits pas de fourmis, alors qu'il faudrait peut-être envisager de faire des pas de géant.
Ou un vol d'abeilles.
Voilà, un vol d'abeilles pour ce problème des insecticides qui devient véritablement, je pense, qui devrait devenir une grande cause nationale, parce que à défaut de grande cause, ça va devenir un grand scandale sanitaire. Voilà, donc c'était une courte info nationale, et tout de suite, on passe à l'international avec notre invité, Damien.
Alors, merci Pierre, et donc là, on va changer de sujet, on passe à l'actualité internationale, Et bonjour Aydin.
Bonjour.
Alors on t'avait reçu à cette antenne il y a quelques mois, lorsque la bataille de Kobané faisait rage. Et alors il me semble qu'il y a du nouveau. Alors je ne sais pas si on peut parler de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Écoutez, il me semble que j'avais annoncé une bataille à la façon de Stalingrad, que Kobané deviendra un Stalingrad et que pour Daesh, donc il y aura pas forcément une victoire, mais au contraire, Kobané deviendra si je peux me permettre, mais un endroit où Daesh quand même va prendre de sacrés coups. Ben finalement, ce qui est arrivé, Kobanéville. Et totalement libéré, juste pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, où c'est Kobané. Kobané se retrouve au nord de la Syrie, au Kurdistan syrien, donc une petite ville encerclée par Daesh. Donc, et il y avait justement des combats en cours depuis 15 septembre. Et ben, finalement, après 135 jours, donc la semaine dernière, Kobané a été libéré totalement, Kobanéville.
Donc Daesh a été repoussé à l'extérieur des limites de la ville. Je crois qu'au niveau du bilan humain, j'ai lu dans un journal aujourd'hui que le bilan était à peu près de 1800 morts, dont 1200 du côté de l'État islamique.
Alors, avant de passer au bilan, il faut savoir qu'il y a deux Kobané. Il y a Kobané-ville et après il y a Kobané-canton et Kobané-région.
Donc la région.
La région de Kobané, elle est toujours en cours de libération, je peux le dire. Donc il y a à peu près 25 villages qui ont été libérés depuis la semaine dernière. Donc. Et les confrontations font toujours rage. Donc la guerre pour la ville est terminée, elle est bien terminée, mais la guerre pour la région de Kobané continue. Alors après, concernant les pertes humaines, effectivement Daesh a pris là un sacré coup. Ce ne sont pas que, le nombre de personnes qui sont tuées qui est le plus important pour Daesh, je pense, parce qu'ils s'en foutent un petit peu de ça. Mais par contre, ils ont pratiquement perdu la moitié de leur cadre supérieur en Syrie. Donc, ils ont perdu leur meilleur guerrier à Kobané, leur meilleur stratégiste à Kobané, et voire même aussi le meilleur idéologue. Ils ont perdu à Kobané encore une fois, donc ils ont mobilisé beaucoup de matériel. Ils ont perdu beaucoup de matériel à Kobané.
Puisqu'ils avaient focalisé tous leurs efforts, ou une grande partie de leurs efforts, sur Kobané, qui était leur objectif prioritaire.
En Syrie, oui. Ils avaient focalisé pratiquement 100% de leurs forces. Forces vives, forces vraiment guerriers à Kobané, finalement, justement. Donc c'est quand même un sacré coup. Pour Daesh, donc on parle de chiffres 1200 au niveau à côté de Daesh. On parle aussi de 426 au niveau des Kurdes, donc 400 YPG et 26. Parmi le 26, il y a 20, je crois, si je ne me trompe pas, de groupes appartenant à des petites brigades d'armée syrienne libre. Donc deux révolutionnaires turcs, trois civils. Et un kurde irakien, Peshmerga, donc soldat kurde irakien, donc voilà. Par contre, les vrais chiffres sont supérieurs, je pense, donc largement supérieurs. Ça, c'est le nombre des gens comptés.
Officiellement recensés, quoi.
Recensés, donc c'est un petit peu prouvé, machin, mais après, il y a aussi tout à côté, le nombre des gens qui ne sont pas recensés au niveau de Daesh, et surtout aussi qui sont blessés, etc. Donc au niveau ressources humaines, je pense que pour Daesh, c'était un sacré coup. Ils ont perdu, je pense, à peu près 5000 combattants, car un combattant blessé, donc qui n'est plus opérationnel, c'est pour eux, c'est comme il est mort. Donc on parle de 3000 blessés et 2000 quand même morts, et c'est énorme.
Et alors là, on parle essentiellement des militaires, enfin, ou en tout cas des combattants, mais qu'ont pu faire les civils qui ont fui la ville, et dans quel état est la ville aujourd'hui?
Alors, la ville, elle est détruite. 90%. Donc je pense qu'il n'y a que 10% des bâtiments qui sont debout. Donc elle est vraiment détruite à 90%. Mais par contre, ça, c'est au niveau matériel. Par contre, au niveau esprit kobanais, c'est un esprit qui est connu quand même au Kurdistan. Au niveau esprit résistance, Kobané debout, Kobané a gagné. Donc la perte de la ville matérielle, effectivement, ça va être un dommage énorme. C'est le travail, c'est vraiment le travail de 100 ans des habitants de Kobané qui est détruite comme ça en quelques mois. Voilà, donc par contre, Kobané, au niveau moral, au niveau politique, au niveau même, au niveau résistance et psychologique, elle est debout, donc elle n'est pas détruite.
Et est-ce que les réfugiés commencent à revenir ?
Alors les réfugiés, oui, il y a des retours, mais après c'est des retours très limités, car je ne sais pas comment les appeler, mais les gestionnaires ou les personnes qui s'en occupent de la gestion de la ville qui reste, donc ils préfèrent placer les familles qui viennent Kobané, d'abord les placer et faire venir de nouveau. Et donc il n'y a pas beaucoup de capacité en fait d'accepter le retour, pour l'instant en tout cas. Après, bien sûr, avec la libération des villages, il y aura plus de capacité d'accueillir, mais en tout cas il y a la volonté d'accueillir petit à petit, donc pour loger et pour créer un système déjà autogéré, un système qui marche déjà autour des gens qui sont là, et donc que les gens qui de retour, les réfugiés qui sont en retour, créent donc et participent à ce système là. Donc c'est vraiment, ils veulent pas créer un chaos, et ils le font petit à petit, quoi. Et voilà, donc Kobané, de ce côté-là, Kobané, je pense que, certes, c'est une ville martyre, hein, donc pour nous, c'est une ville qui a beaucoup perdu, mais par contre, il y a un avant et après Kobané pour les Kurdes en général, et aussi pour Daesh, il y a un avant et après Kobané, et pour cette région-là, pour tout le peuple donc, qui se retrouve donc, sous menace de cette fascisme noir, de ce fascisme vraiment sans précédent. Il y a un avant, il y a un après Kobané. Kobané a donné du courage pour les autres à résister, et voilà, donc il y a rien de vraiment, il y a rien de magique. Donc la résistance, l'organisation sociale, donc sociétale plutôt, l'organisation sociétale, la résistance, et, ouais, ça paye.
Et donc si on prenait un petit peu de recul et qu'on regardait donc dans un spectre un petit peu plus large, qu'est-ce que la victoire de Kobané va changer pour le Rojava, il me semble ?
Oui.
Qu'est-ce que ça va changer ?
Déjà, je pense que Rojava est plus en sécurité qu'avant. Car avec Kobané, on voulait quoi ? On voulait faire tomber Kobané. Donc c'était un canton sur trois. Et après, on voulait faire tomber deuxième canton. Donc encore une fois, faire chasser la population kurde, décurdiser la région. Et après, troisième, donc c'était leur plan. Leur plan, c'était vraiment décurdiser, dépeupler le nord de la Syrie et le remplacer par une autre population. Déjà, ce projet-là a perdu. Kobané est debout. Et du coup, Daesh n'aura pas l'énergie pour attaquer notre canton à cette ampleur-là. Finalement, Kobané, la résistance de Kobané a sauvé Rojava d'une manière à l'autre. Elle a sauvé Rojava parce que elle a créé un sentiment de solidarité internationale autour de Rojava, autour de la lutte.
Pour préciser, peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers de ces termes, qu'est-ce que c'est Rojava ?
Alors Rojava, ça veut dire Est.
Est.
En Kurde, ça veut dire Est. Donc le Kurdistan divisé en quatre par la France et l'Angleterre après 1920. Bref, c'était déjà, il y avait une partie qui était déjà divisée entre l'Ottoman et les Perses à partir du XVIIe siècle. Mais après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs ont dessiné des cartes donc à la règle. Et du coup, les Kurdes se retrouvent
éclatés entre quatre pays.
Et voilà, donc sous l'autorité de quatre États, je pense que deux de ces quatre États sont des États fantoches, donc l'Irak et la Syrie, un sous mandat britannique, l'autre sous mandat français, et les Perses et l'État turc, des États très hostiles, donc des États qui étaient rentrés dans un processus de création de l'État-nation, donc très hostiles à tout ce qui est autre que l'identité nationale. Voilà, donc où les Kurdes éclatés en quatre divisé en quatre. Il y a aussi donc de ce côté-là, donc on développait tout un lexique. Et aujourd'hui, quand je dis Bakou, ça veut dire nord, mais Bakou, c'est le Kurdistan du nord. Quand je dis est, Rojava, c'est le Kurdistan de l'est. Donc au lieu de dire le Kurdistan de Syrie, Kurdistan d'Irak, Kurdistan de Turquie, Kurdistan iranien, on dit Bakour, Rojava, Bashur, Rojalat. Mais du coup, c'est juste l'orientation, en fait.
Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une province qui se gère par elle-même, ou bien c'est un système politique à part de la Syrie, par exemple?
Voilà, donc voilà, Rojava, le et, en même temps, c'est un modèle politique, Rojava. En même temps, il y a une auto-administration sur un certain territoire. Donc voilà, donc on appelle ce territoire-là les trois cantons, l'ensemble des trois cantons Rojava. Mais le Rojava est divisé, donc les trois cantons, trois îlots, un qui est très grand quand même. Et voilà, donc trois régions qui sont auto-administrées, donc avec... trois entités politiques, parlement ou tout ce que vous voulez, donc qui vont donc au lieu qui vont avec, donc comment Rojava au niveau politique, au niveau modèle, donc c'est géré comment, c'est géré avec un système déjà un système politique pyramide inversée. Donc au lieu qu'on prenne des décisions à haut, donc une modèle étatique, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les communes, donc la plus petite base politique, donc citoyens ou c'est les habitants qui des villages ou de petits quartiers, donc qui se réunit dans l'assemblée de communes. L'assemblée de communes décide sur le sort de son quartier et puis sur pratiquement beaucoup de choses, hein, pratiquement la totalité des choses, pratiquement bref, il y a des choses qu'ils ne traitent pas. Et après les communes se retrouve encore une fois à un niveau supérieur dans l'assemblée de la région ou de la ville, donc qui est constituée de plusieurs communes, et c'est dans cette assemblée où les représentants de communes amènent la voix de la commune pour un sujet plus large qui traite la région et pas la commune. Et après l'assemblée, donc il y a plusieurs assemblées, se retrouve dans un congrès confédéral qui s'appelle TEFDEM. Et c'est de cette congrès confédéral que se retrouve à peu près donc, toutes les diversités aussi, donc, que ce soit ethnique, religieux, que ce soit surtout la femme, les jeunes. Donc il y a aussi justement donc, y a toute la diversité qui est l'autonomie de la diversité qui est respectée. Et voilà, donc il y a des choses qui sont décidées par cette congrès. Donc qui concerne tout le monde, et il y a un gouvernement parallèle de ça qui exécute les décisions. Donc
c'est vraiment une sorte d'alternative démocratique au chaos syrien actuel, quoi.
C'est une alternative. Je pense que c'est même une alternative pour la France et ailleurs.
Alors donc, justement. Je voudrais qu'on fasse le lien, parce qu'il existe réellement un lien, et tu en es la preuve, il existe un lien entre ce Rojava, entre ce Kurdistan syrien ou irakien ou le Kurdistan turc, et chez nous, et Marseille. Alors notamment, il existe à Marseille la maison du peuple kurde, et il me semble qu'il y a eu, en ce moment, il y a des démêlés justement judiciaires qui ont lieu. Puisque l'Union européenne considère toujours le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, qui s'est battu aux côtés des YPG, des unités de protection du peuple kurde. Et donc ce groupe est toujours considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc,
alors qu'il résiste en fait au terrorisme.
Alors que c'est le PKK qui est le principal organisateur, le principal défendeur de tous les Kurdes dans la région, pratiquement.
Et pas seulement des Kurdes, y compris les Yézidis.
Les Yézidis, c'est des Kurdes aussi, mais y compris les Arabes, y compris les chrétiens, et y compris les Turcomanes, et y compris
les minorités, en fait.
Toutes les personnes qui n'ont pas finalement de force autodéfense. C'est le PKK qui a formé le force de YPG. C'est vraiment les cadres de Kurdistan syrien, de Rojava, dont le PKK, qui sont rentrés chez eux pour former le YPG, et puis surtout pour former au niveau militaire, parce qu'on se retrouve en face d'un chaos, et finalement, il y a beaucoup de groupes qui viennent de l'étranger, des groupes bien armés, et puis des fois, on ne sait pas pour quelles raisons. Finalement, donc, il faut se défendre rapidement, il faut s'organiser rapidement. Donc, sans le PKK, il est impossible que les Kurdes syriens s'organisent, organisent leur autodéfense, et que même que le Rojava existe, c'est impossible. Et c'est pareil, sans le PKK, c'est impossible que la communauté Yézidi aujourd'hui survive. Donc, on parle d'un génocide. Donc, sans le PKK, il y a 300 à 400 000 personnes qui ne vivent plus. C'est énorme. Après,
est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie française à d'un côté dire qu'il faut soutenir Kobané, qu'il faut soutenir les Kurdes, etc., parce qu'ils résistent à Daesh, et de l'autre côté à garder en prison en France des militants du PKK, et même, je crois que cette semaine, la Maison du Peuple kurde à Marseille a été condamnée à 50 000 euros d'amende oui. pour avoir participé à une collecte de fonds pour soutenir justement ces combattants.
Il y a plein de contradictions. Il y a vraiment plein de contradictions au niveau de l'Union européenne et même des États-Unis et même des États des fois qui n'ont rien à voir, qui ont mis le PKK pour faire plaisir à l'État turc ou l'État iranien ou l'État arabe, Irak et syrien. Donc, aux listes terroristes pour faire plaisir parce qu'ils ont des accords, etc. Mais par contre, quand on regarde un petit peu la complicité plutôt de la France et de l'Angleterre, et après des États-Unis, dont la tragédie kurde, il y a une vraie complicité. Donc, les Kurdes se retrouvent en quatre parce qu'on dessine sur carte, on partage le Moyen-Orient et finalement on s'en fout de composants du Moyen-Orient. Et donc, nous les Kurdes, on se retrouvait dans une, excuse-moi pour le terme, on est sur radio, mais dans une merde. Et qu'aujourd'hui, on souffre toujours. Alors, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie qui ont choisi de créer des formes étatiques État-nation basées sur unité de l'identité nationale. Donc cette identité nationale, c'est le turc officiel, c'est le perse officiel, c'est l'arabe officiel. C'est même pas l'arabe culturel, hein, c'est officiel. Même des arabes ou des turcs ou des perses sont un peu étrangers à cette culture, cette nouvelle identité officielle. Donc ils ont créé cette identité officielle et dans ces états-là, le kurde a été nié. Et chaque état a pris des mesures pour faire disparaître le kurde, soit par la force, soit de la manière douce, c'est-à-dire donc on interdit leur existence, pas d'enseignement, interdiction de leur culture avec le temps, donc l'assimilation, disparition totale. Et donc c'est normal qu'il y a des réactions de la part des Kurdes contre ces politiques-là. Et c'est PKK, c'est une de ces réactions-là qui a été... donc c'était une réaction très forte contre la junte militaire des années 80 qui crée une constitution qui est toujours en vigueur. Et cette constitution prévoit que la langue maternelle de toutes les personnes qui ont la citoyenneté turque, c'est le turc. C'est la loi. La loi indique c'est quoi ta langue maternelle. Et jusqu'à ce que lui qui prétend que le kurde existe, ça commence par 6 ans de prison et la torture et des assassinats, etc. etc. Donc il y a un vrai régime de terreur en face. Et quand il y a une réaction, et quand il y a une résistance, et quand il y a des batailles, d'un coup, le kurde, c'est qui? Le kurde, c'est finalement au niveau politique, il est rien. Au niveau économique, c'est rien. Il ne peut pas acheter des Airbus, mais la Turquie peut. Il ne peut pas acheter des hélicoptères, mais la Turquie peut. Il ne peut pas acheter du Renault. Les plus grandes usines de Renault sont en Turquie. Les démontages se font en Turquie. Et le Renault gagne des sommes fous en Turquie. Carrefour gagne des sommes énormes en Turquie. Je ne sais pas combien Airbus ont été vendus en Turquie. Et le Kurde, c'est qui? C'est personne, finalement. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir.
Mais c'est 20% de la population
un
turque.
Un tiers de la population.
Ou un tiers, turque. Encore
c'est
plus.
C'est un tiers de la population turque. Mais par contre, justement, donc, c'est quoi aussi l'intérêt? C'est quoi la diplomatie pour l'État-nation? Pour l'État-nation, la diplomatie, c'est l'intérêt concret à court terme et à long terme. Donc, pour la France, le Kurde, finalement, c'est personne. Et comme par hasard, chaque fois qu'il y avait un ministre turc ou le premier ministre turc qui venait à Paris, soit une semaine avant, soit un jour avant, soit un jour après, il y avait des descentes dans des maisons, dans des associations kurdes en France. Il y a eu 280 000 arrestations en tout. Mais finalement, aujourd'hui, même avec la décision qu'on a vue, on accuse de quoi? On accuse les personnes du terrorisme, mais il n'y a pas de peine, finalement. Si on accuse une personne de terrorisme, de racket, etc., mais il faut lui donner des peines. C'est, ça vaut quand même une grande peine si vraiment c'est une terroriste, etc. Mais non, on le laisse libre. Bref, après quelques mois d'arrestation. Donc, cette maison kurde qui a été punie de 50 000 euros, cette maison kurde n'existe plus déjà depuis 5 ans. Donc, je ne vois pas qui va payer l'amende. Ben, ils ont que, franchement, il n'y a plus aucun lien de Kurdes de Marseille avec cette association depuis déjà 5 ans.
D'accord, je vois.
Et donc, et
alors, par contre, donc, toi qui es impliqué dans ce mouvement sur Marseille, comment va se poursuivre la mobilisation qui avait émergé notamment en septembre à Marseille?
Alors, déjà, il y a un collectif qui s'est créé. Collectif Marseille Rojava, plutôt un collectif, je peux dire que c'est les milieux donc anarchistes autogestionnaires, libertaires, donc qui s'intéressent au modèle du Rojava, qui y a la volonté venue d'eux, donc créer ce collectif-là pour porter une solidarité concrète à Rojava. Il y a déjà ce collectif qui est créé. Donc il y a aussi les autres partis progressistes, c'est-à-dire MPA, donc aussi PC, qui sont dans la solidarité concrète, plus ou moins. Donc il y a aussi une sensibilisation au niveau de la population, et je vous assure, donc je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais avant quand on manifestait dans les rues, les policiers, certains policiers nous regardaient, nous insultaient, quoi. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est positif ou négatif encore une fois, mais je pense qu'il y a un certain respect. On a gagné un certain respect auprès de populations, pas forcément pour notre résistance. Nous, on résiste pas pour X ou Y, on résiste parce que vraiment, ils nous attaquent. La guerre se fait dans notre maison, on résiste pour garder notre maison, garder pour notre vie, pour vraiment vivre, pour notre dignité. Et il y a une deuxième chose, on résiste aussi pour proposer une alternative à l'ensemble des peuples du Moyen-Orient, pour casser ce cercle vicieux qui dure depuis finalement 5000 années, hein, c'est pas nouveau. Ce cercle vicieux où on est toujours à la recherche des pouvoirs, et pour ce pouvoir-là, donc, on instrumentalise les différences, la religion, les ethnies, etc. Donc bien sûr, pour que certains...
Et on débouche toujours sur des guerres confessionnelles.
Confessionnelles, ethniques, et avec bien sûr l'arrivée de l'impérialisme, capitalisme dans cette région-là, c'est encore impérié avec ce système des États donc, qui crée une frontière, et tout ce qui se trouve sous cette frontière, c'est une propriété privée de l'État, y compris la population déçue, donc l'État-nation. Et les choses encore se sont encore impéries. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans un cercle vicieux, vraiment, où il n'y a que le fascisme qui se produit. Et bien voilà, Rojava, c'est un modèle alternatif qui propose de nouveau... Et c'est une proposition tellement, je pense que c'est ça, tellement innovateur, et qui peut même, dans l'avenir, proposer ce modèle-là à l'Europe. Et pour une fois, depuis peut-être combien de milliers d'années, c'est l'Orient, encore une fois, qui va prendre cette innovation, cette leadership d'innovation au niveau organisation sociale, et pas l'Occident.
Aïdine, je sens que tu serais intarissable sur ce sujet et qu'on pourrait continuer des heures, mais je voudrais te remercier encore une fois chaleureusement d'être venu à ce micro, et on va devoir passer à la suite de l'actualité internationale après une petite pause musicale. Merci en tout cas à toi d'être venu. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire.
Un dernier mot. Vous avez parlé de l'agenda tout à l'heure. J'aimerais bien ajouter deux choses de plus dans l'agenda. Premièrement, donc, mardi soir, à l'Équitable Café, il va y avoir une exposition photo, un débat et une projection. Donc, j'invite les auditeurs de Radio BAM à cette soirée. Donc, ça va être à Équitable Café à partir de 18h30 ou 19h. Il y a une deuxième. Donc, on va manifester, pour une fois, pas contre quelque chose, contre quelqu'un ou contre une organisation, contre l'oppression, mais on va manifester samedi prochain, le 7 février, pour quelque chose, pour un modèle politique, pour Kobané, pour Rojava, pour l'alternative. Et voilà, donc il y aura une grande manifestation qui va être lancée donc de lundi par l'appel Vatlancé de lundi par l'association Kurde à Marseille, le Centre démocratique des Kurdes à Marseille. Donc j'invite aussi donc toutes les personnes qui se sentent concernées par cette crise mondiale aujourd'hui qui nous touche aussi, même ici à Marseille et ailleurs, qui cherche une alternative, qui veut soutenir une alternative. Voilà, donc c'est un moment de rencontre et j'appelle à la solidarité pour le 7 février. Voilà, c'est, et je vous remercie pour m'avoir invité encore une fois.
Eh bien, merci beaucoup. Restez bien à l'écoute sur Zinzine ou sur Radio BAM. On va revenir après une petite pause musicale.
De retour sur les antennes de Radio BAM et Radio Zinzine avec la fin de ces infos internationales. Damien, avec un petit mot sur les échanges entre Hezbollah et Sahel à la frontière du sud Liban.
Oui, alors on s'échange les vœux en cette nouvelle année, mais c'est pas...
Ah, ils ont jusqu'au 31. Hein.
Voilà, ils ont jusqu'au 31, mais c'était pas des vœux de très bonne année. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça remonte à il y a un petit moment en fait. La première attaque a été une attaque de Tsahal, de l'armée israélienne, sur un convoi du Hezbollah. Cette attaque a eu lieu sur le territoire syrien, en fait, puisque le Hezbollah participe aux côtés des troupes de Bachar al-Assad à la guerre en Syrie. Et donc là, c'était un convoi militaire du Hezbollah qui a été attaqué par l'armée israélienne. Causant donc la mort de plusieurs, je crois 6 militants du Hezbollah et un général iranien, puisque comme vous le savez, le Hezbollah est soutenu financièrement et militairement par l'Iran. Donc ça c'était l'origine, disons, de ce petit conflit. Et donc le mouvement Hezbollah a voulu se venger. Et donc vengeance qui a eu lieu il y a quelques jours, puisqu'il y a eu une attaque du Hezbollah sur un convoi israélien, cette fois-ci, dans une zone qui est contestée, puisqu'il s'agit du plateau du Golan, qui est donc à la frontière syro-libano-israélienne. Et Et donc cette attaque a eu lieu à la frontière israélienne, mais sur un territoire qui est revendiqué par Beyrouth, un territoire qui est donc occupé par Israël. Donc cette attaque a fait donc plusieurs morts dans les forces israéliennes, qui a à son tour de nouveau riposté en bombardant avec des obus plusieurs villages, notamment Al-Wazini dans le sud du Liban, donc en causant la mort de plusieurs soldats libanais et même d'un soldat espagnol de la FINUL. Donc la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui est donc censée surveiller la frontière et empêcher que Israël et le Hezbollah, ou en tout cas du côté libanais, qu'il y ait donc ces accrochages, puisque depuis la dernière guerre en date, celle de 2006, où Israël avait attaqué certaines infrastructures au Liban dans le but d'affaiblir le Hezbollah. Donc depuis cette guerre, évidemment, aucun traité de paix, aucun accord n'a été signé, et les tensions sont restées à leur paroxysme. Donc voilà, donc apparemment, les deux parties seraient en passe de considérer que l'incident est clos, et donc on peut espérer que ça n'aille pas plus loin.
Ouais, enfin, jusqu'à la prochaine fois.
Voilà, jusqu'à la prochaine fois, parce que les tensions restent vraiment, vraiment élevées à ce niveau-là. Voilà, il faut signaler que c'est quand même le plus mauvais moment imaginable pour le Hezbollah si Israël venait à décider de l'attaquer, puisque le Hezbollah se retrouverait en guerre sur deux fronts, c'est-à-dire sur le front syrien où il combat aux côtés des forces de Bachar, et au Liban où il défend depuis des années la frontière avec Israël. Le fait aussi que Israël semble prêt à un conflit avec le Hezbollah nous renseigne aussi sur l'intensité de son soutien à Bachar. Effectivement, Israël soutient Bachar et préfère Bachar à l'insurrection, mais dans une certaine mesure, Israël se contente assez bien du chaos syrien. Et ça explique peut-être les raisons de cet accrochage, en tout cas. En tout cas, voilà, on l'espère, un accrochage important, un accrochage significatif, mais espérons-le, sans conséquences pour le moment.
Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des enjeux stratégiques là, entre l'Iran chiite, le Hezbollah chiite, les milices sunnites. Enfin, c'est un triste bordel.
Oui, très compliqué.
Qui malheureusement n'est pas prêt de se délier avec ce qui se passe encore aujourd'hui, malgré la libération de Kobané, comme on l'a vu. Troisième info, avec une promesse de François Hollande.
Oui.
Une promesse tenue, enfin.
Ouais, alors d'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi on vous parle de François Hollande dans cette page internationale. Et justement, parce que la promesse tenue de François Hollande concerne l'international, puisque c'était la promesse qu'avait fait François Hollande en octobre 2013 d'accueillir l'année suivante 500 Syriens. Et donc effectivement, ça a été tenu, cette promesse. Puisque cette année, donc il y a eu un programme Syrie 500, dont l'objectif était donc de pouvoir accueillir 500 Syriens cette année, qui sera renouvelé donc en 2015. Donc voilà, promesse tenue. Mais prenons un petit peu de recul. Donc on accueille 500 Syriens aujourd'hui en France, même un petit peu plus, parce que ce dispositif prend place à côté du dispositif habituel d'asile en France. Donc à ce titre-là, il y a eu des réfugiés qui ont été accueillis en plus de ces 500. Donc au total, on est, je crois, 900-950 Syriens qui ont été accueillis l'année dernière. Donc presque un millier de Syriens, allons-y gaiement. Ça fait quand même pas beaucoup. Alors pas beaucoup à comparer avec ce que réclamait le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, qui demandait aux Européens d'accueillir 30 000 Syriens en asile. Loin derrière, par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne a accueilli 10 000 réfugiés syriens. La Suède, 1 200. Voilà. Alors après, on peut citer les pays frontaliers, par exemple le Liban. Le Liban, donc population 4 millions de Libanais. Population de réfugiés syriens à l'heure actuelle, entre 3 et 4 millions. Donc quasiment autant que leur propre population. Donc voilà, une promesse tenue de François Hollande, mais vraiment une promesse de peu de poids. je crois qu'on pourrait vraiment faire un effort plus important si on voulait être fidèle à notre tradition de pays du droit d'asile.
D'accord, merci Damien. Et bah, pour finir ces infos internationales et bah, nos infos du samedi soir sur les antennes de Radio BAM mais de Radio Zinzine, on a choisi de vous parler d'un personnage assez atypique et assez sympathique que je vous invite à découvrir, qui est le président de l'Uruguay. C'est José Mujica, ou dit Pepe Mujica, qui est l'actuel président de l'Uruguay depuis le 29 novembre 2009. Et en fait, cet ex-guerriero du mouvement des Tupamaros dans les années 60-70, hein, qui est un mouvement d'extrême gauche, en fait, il a une actualité un peu récente dont je vais vous parler dans quelques instants, mais c'est surtout finalement ces actions présidentielles là depuis quelques années qui sont à noter, parce que je vous le donne dans l'ordre, hein, dans l'ordre chronologique, mais depuis 2009, il a juste réussi à limiter le secret bancaire en 2010, légaliser l'avortement en 2012, à voter le mariage pour les personnes de même sexe en avril 2013, et en mai 2014, il a réussi la légalisation du cannabis dans son pays.
Tout ça depuis 2009.
Tout ça depuis 2009.
Donc il va vite en besogne en plus.
Pepe Mujica, il est quand même assez incroyable, et malgré toute cette politique volontariste, il y a aussi des petites attentions qui, bon, on dira que c'est peut-être du populisme, moi j'appellerais ça plutôt de... Une gestion honnête et intelligente, mais parmi quelques mesures assez étonnantes, on noterait qu'il a baissé de 90% son salaire présidentiel.
Donc symbolique importante, là.
Ouais, pour la baisser au niveau du salaire moyen de 900 euros par mois en Uruguay.
Vous imaginez si François Hollande touchait 1184 euros par mois ?
Ouais, ça ferait une sacrée différence, hein, d'autant qu'on sait que là, ça a été annoncé que Valéry Giscard d'Estaing nous coûtait à peu près... Je dis pas de bêtises, mais c'est quelque chose comme 2 millions par an.
Oui, je crois que les anciens chefs d'État réunis nous coûtent 3 millions par an ouais, minimum.
Un truc incroyable. Donc Pepe Mujica, lui, il coûte pas grand-chose. Et en plus, en 2012, lors d'une vague de froid, bah, il a inscrit la résidence présidentielle du président uruguayen, dans laquelle il n'habite pas, sur la liste des refuges pour les sans-abri. Encore une façon un peu de promouvoir une autre forme de politique.
Imaginez si on accueillait tous les SDF du métro parisien à l'Élysée.
Voilà.
Et au restaurant de l'Elysée, ça serait pas beau mal.
Et bah pour son actualité, parce que si on vous en parle, c'est parce qu'il a une actualité, c'est que ce Pepe Mujica, il a eu affaire avec un ouvrier de l'usine de cellulose de Montes del Plata, qui est Gérald Acosta, qui malheureusement s'est vu refuser en fait l'accès à l'usine et à son travail à cause de ses papiers d'identité qui venaient juste de périmer. Et en fait, Gérald Acosta a voulu rentrer chez lui tout simplement à pied, parce qu'il avait, il avait pas de voiture. Et il a décidé de faire du stop, et au bout de 20-25 bagnoles, il y a un petit minibus qui s'est arrêté. Et quelqu'un l'a pris en stop, et les deux personnes qui étaient là, un couple avec deux chiens, lui ont dit bah, « si tu veux, on peut te déposer, mais nous on s'arrête vers le palais présidentiel ». Et Gérald Acosta, il a pas tout de suite compris, mais très vite, il s'est rendu compte qu'en fait, il venait d'être pris en stop et ramené de l'usine par le président uruguayen et son épouse qui est aussi sénatrice. Et voilà, encore un témoignage finalement d'un président vraiment normal, mais qui par contre a une politique qui ne l'est pas, mais qu'on aimerait avoir un peu plus souvent. Voilà. Donc c'était la petite dernière note dans l'info internationale, une note un peu positive et... Voilà, pour clore ces infos.
Merci beaucoup, Pierre, ouais, de nous avoir présenté ce personnage. C'est vrai que ça fait rêver.
Ouais, en tout cas, moi, ça m'a bien fait rigoler. Je vous ai évité une dernière, mais ça fera plaisir à Pierrot, notre, on va dire, rédac-chef. Mais Pepe Mujica a aussi passablement engueulé les personnes de la FIFA à propos de Luis Suarez, ce footballeur qui a mordu un de ses opposants italiens.
Et c'était pas la première fois.
C'était pas la première fois. Et Pepe Mujica, mais il est pas allé par le dos de la cuillère morte. Et en fait, les gens de la FIFA, il leur a tout simplement affirmé que toutes leurs mamans n'avaient pas des boulots tout à fait honnêtes. Voilà. Enfin, vous m'aurez compris. Bon, ben on vous remercie d'avoir suivi ces infos. On vous souhaite un bon week-end.
Merci beaucoup pour votre attention et on va remercier chaleureusement Antonin qui était à la technique avec nous ce soir. Et on aura le plaisir de vous retrouver en direct depuis Marseille sur Zinzine samedi prochain. Et désolé encore pour le retard sur ces informations, on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Restez à l'écoute et restez en forme. Bonne soirée et bon week-end.
Merci à tous, bonne soirée.
Ciao.